politique.
C'est intéressant ce que vous dites, Ségolène Royal. Il ne faut pas détourner les Français de cet effort. Il faut avoir leur consentement à cet effort. Il faut maintenir cette cohésion nationale. Et précisément, j'en viens au sujet des retraites. Quand on demande aux Français, il y a eu un sondage Ipsos il y a quelques jours, quel effort êtes-vous prêt à consentir pour muscler notre défense ? Une des lignes rouges, c'est travailler plus longtemps. Il y a 58% des Français qui refusent catégoriquement de travailler plus longtemps. 27% ne l'approuveraient pas vraiment, n'accepteraient si la situation vraiment le justifiait. Et il y a seulement 12% qui l'approuveraient totalement. Est-ce que c'est le moment ? Parce que quand on entend Patrick Martin dire aujourd'hui 64 ans, c'est le minimum, et même il va falloir réfléchir à travailler encore plus longtemps, est-ce que c'est le moment de mettre ce débat sur la table ?
Alors juste pour vous rassurer, les chiffres sont les mêmes dans tous les pays d'Europe. Parce que, par construction, les gens n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Oui. Il y a toujours à peu près le même pourcentage. C'est 25% des gens qui sont prêts à le faire, 15% qui hésitent, et 60%, là, c'est 58. C'est pareil. Et tous les gouvernements européens ont fait une réforme des retraites, et pour beaucoup d'entre eux, beaucoup plus dure, puisqu'on parle même au Danemark de 70 ans. Donc, moi, je suis aligné sur cette position. Un mot sur le conclave qui porte vraiment mal son nom, parce que le conclave,
il va peut-être changer de formule aussi.
Mais le conclave, c'est un endroit secret où on se réunit sans possibilité de communiquer avec l'extérieur pour choisir un pape. Quand le conclave a été proposé par Sambéon, où j'avais fait un post en disant, c'est une mauvaise méthode avec une question mal posée. Alors je m'explique en deux mots, mauvaise méthode, parce que j'ai eu beaucoup de négociations en disant au MEDEF, il y en a que j'ai échoué, sur lequel j'ai échoué, il y en a sur lequel j'ai réussi. Mais celle sur lequel on a réussi, on n'était jamais en présence du gouvernement. On avait, c'est la vérité, avant nettoyé le terrain, préparé un terrain d'atterrissage avec la CFDT, et on avait, j'allais dire, pré-négocié. Là, il se retrouve exactement la situation opposée, où tous les jours, il y a un événement politique, une déclaration, ils sont devant les caméras de télé. Donc,
tous les jours, il y a un partenaire qui quitte la porte.
Mais parce que justement, déclarations, etc. Donc, on peut pas réussir une négociation difficile comme ça. Et puis, une question mal posée, parce que on a fait croire, et ça, c'est la faute du gouvernement Borne, aux Français que ils pouvaient prendre leur retraite à 62 ans avant. Et maintenant, c'était 64 ans. Mais c'est complètement faux. L'âge moyen de départ à la retraite avant la réforme était de 62 ans et 8 mois. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui partent avant et des gens qui partent après.
Parce qu'il y a une durée de cotisation.
Pardon ?
Parce qu'il y a une durée de cotisation.
Oui, parce qu'il y a une durée de cotisation, parce qu'il y a les départs anticipés. Et donc, la réalité, c'est que personne ne part à 64 ans. Enfin, s'il y a des gens qui vont partir à 64 ans. Mais vous avez un tiers des gens qui vont partir avant 64 ans et probablement un tiers qui partiront après. Alors après, on pourrait moduler un peu ça. On pourrait faire partir plus de gens avant. Mais aussi, il faut qu'il y ait plus de gens après qui partent pour payer la différence.
Ce conclave, la méthode du conclave, elle va peut-être évoluer. On va en parler dans un instant, Yves. Mais justement, sur la façon de faire de François Bayrou, sans parler du fond, mais sur la forme, est-ce qu'il a eu tort de dire au début sans totem ni tabou et de changer les règles en cours du jeu et
de dire désormais il a toujours tort de mentir, c'est un artifice politique pour acheter entre guillemets la paix, je sais pas si c'est la paix sociale mais enfin la paix au Parlement
PS, pour acheter le PS.
Mais non, c'était
à Matignon.
C'est un artifice. Et donc il y avait pas il a acheté, je sais pas ce qu'il a acheté,
il gagnait du temps.
C'était un instrument politique.
Non, alors je vais vous dire moi ce que je ferais d'ailleurs Patrick Martin je crois le dit dans les Échos demain matin, c'est que il faut sortir de ce conclave, mais pour aller renégocier ailleurs entre partenaires sociaux.
Oui, alors justement, parce que j'aimerais moi avoir une clarification là-dessus, parce que c'est ce que dit Patrick Martin effectivement dans les Échos, et c'est à peu près la même chose que dit la CFDT.
Mais oui,
la CFDT dit
oui
à un conclave, c'est pas un hasard. Ça veut dire qu'ils potentiellement ils sont d'accord pour une nouvelle formule, une nouvelle réunion. Et ce que dit Patrick Martin, c'est oui à une remise à plat du système à des discussions, mais indépendamment du gouvernement.
C'est ce que je vous ai dit au début, c'est une mauvaise méthode. Mm-hmm. Encore une fois, les partenaires sociaux, ils résolvent pas tout. Nous, on a échoué sur la retraite, on avait réussi sur la retraite complémentaire, on a réussi sur le partage des valeurs. Et à chaque fois, comment ça se passait, je passe pour révéler un secret, mais je voyais Laurent Berger avant, on discutait, on essayait de trouver, non pas la solution, parce que la solution, on la trouve pas, mais une sorte de piste d'atterrissage pour être sûr qu'on rentrait dans une négociation sans avoir une trajectoire de collision.
Mais quelle
donc,
est la garantie?
Il n'y avait pas l'État, pardon.
Oui, si l'État n'est pas là, quelle est la garantie qui fera que ce que décident les partenaires sociaux sera appliqué?
Alors, c'est
première
une très bonne question.
Et deuxième question, pourquoi lorsque toutes les organisations syndicales de salariés étaient hostiles à la réforme des retraites, tous, et les Français massivement hostiles, pourquoi ça a quand même été fait?
Parce que, alors, donc, pardon,
comment est-ce que les gens vont croire à la démocratie et à l'écoute?
Mais parce que c'est la bonne chose à faire pour le pays.
Non,
c'est, non
si.
Mais d'accord, mais vous avez une conviction différente de la mienne. Mais
non.
Je ne pouvais pas accuser les partenaires sociaux dans ce cas-là,
la
parce que ce n'est pas eux qui l'ont fait.
Des Français.
Mais ce n'est pas parce que les Français sont pour la peine
mais
de mort.
Ce n'est pas
parce
que la peine de mort.
Ce chiffre est énorme. Pourquoi ce chiffre de 58% est énorme? Parce que dedans, vous avez les jeunes. Vous avez les jeunes et vous avez les actifs.
Mais les jeunes ne veulent pas travailler plus.
C'est pas vrai.
Les jeunes, ils n'auront pas de retraite.
Ils savent
très bien qu'ils n'auront pas de retraite.
Pas de retraite.
Mais retraite à
un jeune, il y en a un à ce plateau, il peut peut-être s'exprimer. Il
sait, mais tout le monde est jeune.
Un jeune journaliste, il n'aura pas de retraite.
Mais justement, parce que les jeunes,
oui, je
ne veulent pas,
je sais
les jeunes ne veulent pas que les acquis sociaux reculent parce qu'ils se disent qu'eux, ils n'auront pas de retraite.
Écoutez, non, les acquis sociaux, les miens en tous les cas, reculeront parce que c'est infinançable.
Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire, j'en suis désolé.
Les jeunes veulent que les gens travaillent plus longtemps pour payer moins de cotisations pour ceux qui vont partir à la retraite. Mais ce n'est pas vrai, puisque vous avez 60% des gens qui ont pris
dans un régime par répartition.
Mais ça va plus
loin. La démographie baisse,
voilà.
Pas d'autre solution.
C'est
où
la
on augmente les impôts. Oui, où
on baisse les cotises.
Où on baisse les retraites. Mais c'est pas vrai. Où, parce qu'il y a un transfert de rémunération du travail vers le capital. Il faut peut-être qu'une partie de la rémunération qui
proposez,
va au capital cotise.
Et donc vous
pour
proposez d'augmenter les impôts. Évidemment,
mais
je ne suis pas d'accord avec
alors,
vous.
Alors je crois en mesure. Ou alors il y a une autre solution. C'est ce que dit Victor
Hérault.
Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que les retraités doivent pas participer aussi à cette chose?
Sur Agirc-Arrco, personne ne le dit. Mais comment on a rééquilibré Agirc-Arrco qui a 60 milliards de réserves? Eh bien, on a désindexé les pensions. On les a désindexés depuis 10 ans.
C'est pour
mais
ça
on l'a fait dans le silence absolu. On l'a fait dans le
Donc
dans
il faut
la
faire payer les retraités.
Mais c'est une question que vous posez.
Bien sûr,
c'est
une question qui formulée comme ça, c'est
les retraités
à dire.
Vont dire
mais
non.
Ils ont un niveau de vie supérieur à celui de la population. C'est absolument pas normal. On parlait de croissance tout à l'heure. Il n'est pas normal que les actifs priment pour les retraités.
Enfin, Christophe Barbier, d'accord, ça c'est une chose.
C'est faux.
Mais à cause de ça, on sait aussi que les retraités, ce sont ceux qui votent le plus et que les politiques ont énormément de mal à aller toucher le portefeuille des retraités.
C'est faux cet argument comme quoi les retraités gagnent plus.
Ah oui, non, je parlais de l'argument politique.
Mais vous comparez aussi avec des jeunes qui rentrent dans la vie active. Forcément, ils gagnent moins que le retraité qui est en fin de carrière.
Oui, mais la démographie fait que je paierais pour l'équivalent d'un retraité. En 70, c'était 4 actifs qui payaient pour un retraité. C'est pas du tout la même chose.
Si les revenus du capital.
Après, si on sollicite les revenus du capital, faut faire en sorte de se prémunir contre l'évasion du capital. Et que les capitaux n'aillent pas ailleurs, parce qu'on créera plus de richesses du tout et plus d'emplois du tout. Donc c'est un équilibre savant à trouver. C'est vrai que depuis les 3-4 dernières décennies, le pouvoir d'achat des retraités a été préservé, alors que le pouvoir d'achat des classes plus basses a été plus dégradé.
Les retraites sont indexées, bien sûr.
Oui, il y a l'indexation là en cours. C'est vrai qu'il y a des raisons politiques, on ne peut pas fâcher les retraités.
Vous avez vu ce que ça coûte maintenant l'alimentation?
Mais pour un actif aussi, je
vois. Mais ne dites pas que les retraités, c'est
indexé. Les retraités ne sont pas privilégiés, mais les retraités sont plus protégés.
Sont plus protégés? Est-ce qu'ils sont plus protégés aussi politiquement? J'aimerais juste qu'on regarde, Yves Fréard, excusez-moi, c'est Glenn O'Brien, mais qu'on regarde les déclarations effectivement de Patrick Martin dans Les Échos, qui dit on ne pourra pas balayer ce sujet d'un revers de la main. Peut-être faudra-t-il poser la question de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites ou encore la hausse de la CSG pour les retraités. Mais qui aura le courage politique de s'attaquer aux retraités? Et encore une fois, on peut faire la distinction aussi entre des retraités. Il y a des gens qui vivent avec des très petites retraites, c'est pas question de les toucher eux, mais peut-être les retraités les plus aisés devraient-ils contribuer
alors davantage. L'abattement fiscal de 10%, c'était déjà ce que Patrick Martin proposait il y a quelques mois, avant même l'ouverture du conclave. C'était d'ailleurs assez courageux de sa part, vous l'aviez peut-être aussi dit votre temps, de dire qu'il faut revenir là-dessus. C'est sûr que les retraités, et Christophe l'a très bien dit, ils sont protégés pour la majorité d'entre eux. Évidemment qu'il y a des gens qui peinent des petites retraites, surtout des femmes seules.
La retraite moyenne des femmes.
On est tous d'accord
avec
ça. Mais
quelle est la retraite moyenne des femmes?
La contribution.
Vous connaissez la retraite moyenne des femmes?
La contribution.
1140 euros.
La contribution.
Donc il faut arrêter.
La contribution.
Non, mais peut-être pas
sociale généralisée.
Pas faire contribuer tous les retraités.
Mais
juste le.
On peut peut-être
les retraités les plus aisés.
Voilà.
Non, mais on peut mettre l'immobilier dans le calcul aussi.
La moyenne est là. Et on peut dire aussi, je suis désolé, que depuis 30 ans, voire 40 ans, la génération qui a été toujours la plus protégée en France, c'est la génération des plus anciens, pour des raisons politiques évidente, c'est que bah, ils votent.
Ils sont plus
ils
nombreux
plus que les autres.
Les boomers, bah,
ils
si.
Sont plus nombreux.
Ils sont plus nombreux démocratiquement.
Et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on touche aux retraites. Sur le plan politique, eh ben, c'est l'explosion. Mm-hmm. Michel Rocard l'avait très bien dit en
son temps. J'ajoute, Yves Tréhard, quand même, que les comparaisons européennes, je ne parle pas d'autres pays, nous montrent exactement la même
chose.
Bien sûr. C'est-à-dire, le rapport est inversé en Allemagne, par exemple. Et puis surtout, alors, ils ont une démographie un peu plus difficile, mais la nôtre baisse, tout le monde a augmenté l'âge de la retraite. Là, d'ouverture des droits.
Et alors
et bien plus. Et alors, on peut pas vivre dans un monde mondialisé.
La misère des anciens en Allemagne, c'est bien caché.
Non, mais je dis pas que l'Allemagne est le modèle, madame Royal, mais on ne peut pas faire comme si les autres n'avaient rien fait. Si à un moment, la quantité de travail en Europe augmente, si nous, on fait moins, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas.
C'est pas bon pour la croissance.
C'est pas bon pour la croissance de travailler plus.
Continuer à opposer.
C'est l'actif qui peut pas.
Mais faut plus d'actifs.
L'actif est étranglé. C'est ça le problème avec la croissance.
Il y a 30% des femmes qui n'ont déjà pas aujourd'hui de carrière complète. 30% juste, des femmes. 40%, la retraite moyenne des femmes est de 40% inférieure à celle des hommes parce qu'elles ont des années de retraite incomplètes. Donc, vous repoussez l'âge de la retraite, vous faites encore basculer mais des centaines de milliers de femmes dans la précarité.
On peut très bien.
Et deuxième chose.
Terminer.
Là, on a un problème de natalité. On est d'accord.
Ah oui, c'est sérieux.
Eh bien, le rôle des retraités dans la société, c'est pas que de la comptabilité et la retraite. C'est aussi un rôle crucial, c'est-à-dire un rôle de sécurisation aussi des générations qui viennent derrière. Et quand un retraité peut payer son EHPAD, plutôt que ce soit ses enfants qui payent l'EHPAD, c'est quelque chose de très important dans une société. Et moi, je ne veux pas d'une France où on voit, en effet, des retraités basculer dans l'extrême misère, comme en Allemagne, comme dans les pays du Nord, où on voit des gars reprendre les taxis à 80 ans parce que pour compléter les retraites. Je ne veux pas de non ça pour ça, mon pays. Certain. On a acquis cela.
Ne décrivez pas l'Europe du Nord comme un bagne. C'est quand même un poil exagéré.
On a acquis un système.
Il y a eu des reportages faits par des journalistes très sérieux sur la Suède, par exemple. Donc, il y a une misère cachée. Il y a une misère cachée des anciens. Qui n'existe pas en France. Et ça, c'est un trésor.
Pour les plus basses retraites, effectivement, il ne s'agit pas de baisser toutes les retraites, etc. Ce que je dis, c'est que on a hérité d'un modèle par répartition qui démographiquement ne marche plus. Le deal était vis-à-vis, par exemple, la génération 46 à 60, ce qu'on appelle les boomers. Le deal était, on fait par répartition, c'est-à-dire que ce sont les suivants, la génération suivante qui paieront vos pensions, mais il faut faire plus d'enfants. Et il faut toujours faire plus d'enfants pour que le système fonctionne. C'est un système de Ponzi, c'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait davantage d'enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours plus d'actifs en dessous pour financer plus de retraités au-dessus. C'est comme ça que
l'autre solution, on est arrivé à saturation. D'ailleurs, pas un camp patronal, c'est d'augmenter la durée de travail de ceux qui travaillent. Mais là aussi, vous avez aussi des réticences. Donc à un moment,
c'est la productivité, si vous voulez, il faut peut-être se poser aussi la question.
Ça ne se décrète pas par les politiques, madame, c'est des innovations.
Il faut peut-être se poser la question aussi du rapport au travail. Pourquoi les Français ne veulent pas travailler plus? C'est qu'il y a un malaise à ce moment-là.
Et là, c'est au cœur du conclave. Si on arrivait à régler déjà la pénibilité, à faire en sorte que les gens soient pas cassés au travail,
mais
qu'ils aient envie du travail.
Ça peut pas être au cœur d'un conclave tel qu'il est conçu. Parce que quand vous avez les caméras de télé toute la journée, vous pouvez pas discuter sérieusement. C'est bien le problème, je suis d'accord avec vous. À partir du moment où on a mis le focus là-dessus, il n'y a pas de discussion sérieuse. Mais pour parler partage de la valeur, qui est un sujet très compliqué, on n'était pas d'accord du tout avec les syndicats. Le gouvernement nous a dit, trouvez une solution, sinon on légifère. On a dit, écoutez, laissez-nous 6 mois, mais foutez-nous la paix. Laissez-nous travailler. On a fini par signer un accord avec la CFDT, qui est un accord qui est très innovant, qui n'existe pas ailleurs en Europe, où on oblige, si vous voulez, les PME, quand elles ont fait 3 ans de profit de suite, à partager. Mais ça a été 6 mois de travail loin des caméras. Et donc, tout le problème de ce conclave, c'est qu'on peut pas discuter pénibilité, on peut pas discuter carrière des femmes, parce que toute la journée, il y a un ministre qui dit ci, un autre qui dit ça, etc.
C'est pas possible. Donc, ce que vous dites au gouvernement, c'est foutez-nous la paix. Ouais. Et laissez les partenaires sociaux
laissez
travailler.
Laissez les partenaires sociaux travailler. C'est un peu ce que dit Maryse Léon. Enfin, elle a pas dit.
Vous avez un terrain d'entente à ce niveau-là, en tout cas.
Et c'est ce que dit Patrick Martin. C'est-à-dire que si on veut travailler sérieusement sur des sujets très compliqués, multifactoriels, il faut le faire en dehors des caméras.
Et d'ailleurs, la question a été posée à Patrick Martin. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est prêt à vous suivre? Il dit, le Premier ministre ne m'a pas semblé fermé à un changement de méthode. Donc peut-être que ce conclave renaîtra sous une autre forme. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Geoffroy Roux-de-Bézieux d'avoir été notre invité. Et merci également Victor Hérault.